La jalousie naît toujours d'une curiosité qui n'est pas normale. Qu'un aurait dû, en adorant Dieu, ne pas regarder son frère, ne pas loucher. Cette curiosité a fait naître en lui une jalousie. Je crois que la jalousie provient toujours d'un certain orgueil, sous-jacent. On n'accepte pas que l'autre soit plus aimé que nous. Du moins, on imagine que l'autre est plus aimé, parce qu'on ne le sait pas. On imagine que l'autre est plus aimé, et alors on le jalouse à ce moment-là. Et quand on jalouse quelqu'un qu'on croit plus aimé, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de le faire disparaître. La jalousie conduit à l'homicide. Et nous voyons à ce moment-là que Dieu intervient et il interroge Caïn. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air d'être triste. Qu'est-ce qu'il y a? Fais attention, la bête est tapie, là. Alors c'est très très beau de voir la différence aussi de l'intervention du serpent, le tentateur, quand il s'agit d'Ève, et lorsqu'il s'agit de Caïn. La bête est tapie là. C'est le démon qui agit sur notre imaginaire. La conséquence de la première faute fait que le démon peut agir sur notre imaginaire. Il ne pouvait pas agir sur l'imaginaire d'Ève. Alors qu'il peut agir sur l'imaginaire de Caïn, puisque c'est après la première faute. Caïn est né dans la faute, comme nous tous, dans conséquence de la faute première de son père. Alors la bête tapie montre l'intervention du démon sur l'imaginaire de Caïn. Et cette intervention du démon sur l'imaginaire de Caïn va le conduire à l'homicide, donc au fratricide. Et à partir de ce moment-là, Caïn devient un errant. C'est la conséquence immédiate. Pourquoi? Parce qu'il s'est opposé à son frère en le rejetant et en le supprimant. À partir de là, il est isolé. Il est seul. Je crois que l'orgueil qui se réalise à travers les relations fraternelles mettant une jalousie conduit nécessairement à une séparation. Vous voyez la double manière dont l'homme se sépare. Il se sépare de Dieu, il se sépare du prochain. Et il se sépare de Dieu et il se sépare du prochain à l'égard de ces doubles modalités d'orgueil. Orgueil à l'égard de Dieu, orgueil à l'égard du prochain. Et cet orgueil à l'égard du prochain, c'est la jalousie. Troisième modalité de la faute, c'est de considérer que progressivement, l'humanité entre dans l'iniquité. Il est dit, du reste, à propos de cette faute généralisée, que Dieu a comme un dégoût de l'homme. Dieu dit à Noé, « La fin de toute chose est venue devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Voici que je vais les détruire, ainsi que la terre. Fais-toi une arche. » Dieu a un dégoût de l'humanité, il veut la détruire. Sauf Noé, qui reste juste. Donc on est en face d'une faute généralisée. L'iniquité de l'humanité, c'est-à-dire l'homme n'a plus aucun respect de l'homme. Le fondement de toute morale, c'est bien le respect à l'égard de l'autre. Quand il n'y a plus de respect à l'égard de l'autre, et plus l'autre est petit et faible, plus il faut avoir ce respect vis-à-vis de lui. Un innocent qui ne peut pas se défendre, il faut le respecter plus que quelqu'un qui est capable de se défendre. Le respect à l'égard de l'autre est quelque chose de fondamental dans l'ordre moral. Eh bien, on voit que la troisième faute, c'est cette iniquité généralisée. Cette iniquité généralisée fait que l'homme n'a plus aucun respect de l'homme. Donc l'homme ne voit plus dans l'homme l'image de Dieu. Il considère tout simplement l'homme comme un adversaire ou un rival ou quelqu'un avec qui il peut coopérer en vue du mal. Il n'y a plus aucune relation d'amour. C'est cela, je crois, qui est présenté dans cette iniquité généralisée, et c'est pour ça que Dieu a un dégoût de l'homme et que Dieu a envie de le rejeter, de le détruire. On est en face, là, d'une conséquence du péché qui touche quelque chose de très profond, puisque l'image de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu, semble disparaître. Elle ne disparaît pas profondément, ontologiquement, mais au point de vue éthique, elle disparaît. Au point de vue moral, elle disparaît. L'homme n'ayant plus aucun respect de l'homme. Alors Dieu intervient. C'est très intéressant de voir, hein, quand l'Écriture nous montre les moments où Dieu intervient. Dieu laisse, hein, il laisse avec une patience extraordinaire. Dieu laisse le mal. Et puis à un moment donné, Dieu ne peut plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a des limites à la patience de Dieu. Hein. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un moment donné où Dieu est obligé d'intervenir. C'est très difficile pour nous de le prévoir, hein, parce que nous ne connaissons pas la sagesse de Dieu. Mais l'Écriture nous le montre. C'est pour ça que le déluge, le symbolisme du déluge, symbolisme divin, quand je dis symbolisme divin, je veux dire qu'il y a une réalité. Mais comment le déluge s'est réalisé, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout comment ça s'est réalisé. Ne cherchez pas à voir comment. Parce que ceux qui veulent trop voir comment, ils tombent dans des imaginations, n'est-ce pas ? Je ne sais pas comment. Mais le déluge a eu lieu. Et le déluge montre une intervention directe de Dieu. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que je vois qu'à un moment donné, il y a une situation limite par rapport à Dieu, j'allais dire. Il y a une situation limite par rapport à Dieu. Si l'homme va trop loin dans la dégradation, et c'est intéressant pour nous, ça. Si l'homme va trop loin dans la dégradation, à un moment donné, Dieu ne peut plus le supporter. Et Dieu a un dégoût. En disant, non, non, ça ne peut pas durer. Et il y a le déluge. Et au milieu du déluge, il y a quelqu'un que Dieu aime, parce qu'il est juste. Et c'est ce qui montre bien que la colère de Dieu est une colère sainte, et que ce n'est pas une colère passionnelle, et qui fait que Dieu ne punit pas tous les hommes, puisqu'il sauvegarde Noé. Donc, il y a un jugement de discernement à travers cette colère de Dieu vis-à-vis des hommes. Et tout est repris avec Noé. Alors, que représente cette iniquité généralisée ? Je crois qu'on peut dire que cette iniquité généralisée représente le fait que l'homme n'a plus aucun sens de la justice, puisqu'il ne respecte plus l'autre. La justice nous permet de respecter l'autre en tant qu'autre, dans son droit. Si je ne respecte plus l'autre dans son droit, il n'y a plus de sentiment de justice. Et quand il n'y a plus de justice, il ne peut plus y avoir de communauté. On le sait bien. On est devant l'anarchie la plus absolue. Et quand on est en face de l'anarchie la plus absolue, alors à ce moment-là, il ne peut plus y avoir de communauté. C'est impossible. Parce que l'homme devient pour l'homme un ennemi. L'homme devient pour l'homme un loup. Il ne peut plus y avoir de coopération. Toute coopération, qui est le fondement même de la communauté, présuppose une confiance et présuppose par le fait même un respect de l'autre. Vous ne pouvez pas coopérer avec quelqu'un qui n'a aucun respect vis-à-vis de vous. C'est impossible. Vous ne pouvez pas coopérer avec quelqu'un qui n'a aucune confiance en vous et qui ne cherche qu'une seule chose, c'est de vous détruire. Pas coopérer, c'est impossible. Il y a une limite à la coopération, et la limite à la coopération montre la limite de la communauté. Et à ce moment-là, on voit très bien plus de justice. L'injustice généralisée. Donc Dieu reprend tout avec Noé. Quatrième moment, l'orgueil généralisé dans les hommes. Et nous avons la tour de Babel. Toute la terre avait un seul langage et les mêmes mots. Or, en partant du côté de l'Orient, les hommes trouvèrent une plaine au pays de Kinéar et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » La brique leur fut lieu de pierre et le bitume leur tient lieu de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés à la surface de toute la terre. Vous voyez comme c'est curieux, c'est la technique, hein. Si vous êtes attentif, symboliquement, c'est bien la technique qui est représentée ici. Ça ne veut pas dire que toute la technique est toujours mauvaise, hein, ce n'est pas ça du tout que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme se trouve devant un pouvoir tel qu'il n'y a plus de limite à son développement. C'est la communauté humaine qui subitement dépasse toutes les limites normales. Et que grâce à une technique, alors une technique très simple, hein, la technique représentée ici, faisons des briques et cuisons-les au feu. C'est la possibilité de construire des choses étonnantes. Hein. Alors, le jugement de Dieu. Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Yahvé dit, voici qu'à eux tous, ils sont un seul peuple et ont un seul langage. S'ils ont fait cela pour leur début, rien désormais pour eux ne sera irréalisable de tout ce qu'ils décideront de faire. Vous voyez bien, cette espèce d'orgueil dans l'ordre de la réalisation. Ils vont pouvoir faire n'importe quoi, jusque des bébés éprouvettes. N'importe quoi, ils pourront aller jusqu'au bout. C'est ça qu'il faut regarder. Hein. C'est ce moment très très précis où de fait l'homme arrive à une domination grâce symboliquement à une petite technique qui est représentée au point de départ, mais il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de limite. Donc ça échappe à ce moment-là à une espèce de prudence. Savoir ce qu'on peut faire, savoir ce qu'on ne peut pas faire. On est grisé par la technique. Et on est grisé par la technique d'une façon telle qu'il n'y a plus de limite. Alors, remarquez bien, le symbolisme est très fort. D'habitude, l'omniprésence de Dieu en nous, Dieu nous voit de l'intérieur. Moi, je vous vois de l'extérieur, et vous aussi, parce que nous ne sommes pas Dieu. Alors, on se voit de l'extérieur. Mais Dieu nous voit de l'intérieur. C'est le propre de Dieu. C'est pour ça que je ne peux rien cacher à Dieu. Même quand je ferme mes yeux, Dieu me voit. Même quand je me bouche les oreilles, Dieu entend tout. C'est extraordinaire, Dieu voit de l'intérieur. Alors regardez ici. Yahvé descendit pour voir la ville. On est bien obligé de montrer que Dieu doit regarder de l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme a chassé Dieu de son cœur. Et donc nous sommes en présence de cette griserie d'une technique qui peut aller toujours plus loin. Pas de limite. Et Dieu n'est plus dans le cœur de l'homme. Dieu n'habite plus dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Dieu demeure dans le cœur de l'homme par l'amour. C'est dans la mesure où nous aimons que Dieu est présent. Que Dieu est présent en nous et qu'il dirige. Et que nous restons alliés de Dieu. Si de fait, il n'y a plus d'amour, et il n'y a plus que la recherche de l'efficacité, on va toujours plus loin. Dans l'ordre de l'efficacité, vous pouvez toujours aller plus loin. Il n'y a pas de limite. Et c'est bien ce qui est montré ici. Hein. Les hommes sont unis dans l'ordre de l'efficacité. Vous voyez ce premier œcuménisme très particulier, n'est-ce pas ? Avant les divisions. Ils parlent tous la même langue, ils sont tous unis dans la fabrication des briques et dans la fabrication du bitume. C'est évidemment plus facile d'être unis du côté économique que du côté religieux. Vous voyez que c'est plus facile. Et c'est bien ce qui nous est montré ici. Ils sont tous unis dans la fabrication des briques et du bitume. Et dans la fabrication des briques et du bitume, là, ils sont unis et ils veulent aller toujours plus loin. Pas de limite. Et Dieu est absent de plus en plus de leur cœur. Dieu est obligé de regarder de l'extérieur. Et Dieu dit, arrêtons. Là encore, nouvelle intervention de Dieu. C'est très curieux. Chaque fois, on voit les interventions de Dieu directes. Hein. Chasser du paradis terrestre, c'est une intervention de Dieu. Cain errant, c'est une intervention de Dieu. Le déluge, c'est une intervention de Dieu pour la destruction, et non pas pour l'éducation. C'est pour la destruction. Il faut détruire cette humanité qui ne sait plus du tout ce que représente le respect et la justice. Et ici, Dieu intervient pour diviser les hommes par la multiplication du langage. Et par là, l'humanité ne sera plus une. Et parce que l'humanité ne sera plus une, il ne pourra plus y avoir cette espèce d'orgueil collectif pensant qu'on peut aller jusqu'au bout de l'efficacité. Vous voyez, ce quatrième moment, c'est l'orgueil collectif des hommes dans le facere, c'est-à-dire dans la réalisation, dans la technique. C'est l'orgueil de l'homme de ce côté-là, qui veut construire une tour qui atteint le ciel. Et donc, plus besoin de Dieu, parce que le symbolisme du ciel, c'est le lieu de Dieu. Et donc, les hommes peuvent se passer de Dieu. Ils n'ont plus besoin de Dieu parce qu'ils ont une technique. Ils ont une technique tellement puissante qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Je crois que c'est tout ça qui est impliqué dans ce chapitre 11 de la Genèse, qui nous montre le quatrième moment. Après, nous avons l'histoire d'Abraham. Donc, on peut dire qu'en face de ces 11 premiers chapitres de la Genèse, qui sont tout à fait différents des autres, hein, mais qui sont si importants parce qu'ils relèvent de traditions religieuses très primitives, purifiées par l'Esprit Saint pour nous. Et donc, qui nous donnent comme les choses tout à fait premières, fondamentale, j'allais presque dire, hein, comprenez bien, c'est Dieu qui nous donne la maquette de son gouvernement sur l'humanité. Je crois qu'on peut le dire. C'est quelque chose de tout à fait premier qui, d'une certaine manière, est au-delà du temps. C'est bien dans le temps, c'est bien une réalisation concrète, mais c'est au-delà du temps. Et on nous donne dans ces 11 premiers chapitres de la Genèse l'économie divine, donc la manière dont Dieu conduit les hommes, en voyant les ruptures. Et les ruptures, ce sont les fautes. Et il y a ces quatre grandes ruptures. L'orgueil chassé du paradis terrestre, la brisure à l'intérieur des hommes, un frère qui tue son frère, l'iniquité généralisée, la justice qui disparaît, et l'orgueil collectif des hommes dans le fatueret, dans la réalisation de la technique. Je crois que c'est assez extraordinaire quand on essaie de comprendre cela profondément, parce qu'on voit comme toutes les brisures, si vous voulez, du chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est l'homme et la femme créés dans cette harmonie profonde telle que Dieu l'a voulu. Les interventions du démon, qui sont explicites pour les deux premiers péchés, pour les deux premières ruptures, qui après ne sont plus explicites, comme si c'était plus nécessaire. L'homme, quand il a commencé sur l'orientation de l'orgueil, il n'a plus qu'à continuer. Mais il y a une universalisation. Vous avez deux fautes personnelles et deux fautes collectives. C'est montré dans le texte de l'Écriture. Les deux fautes personnelles, Ève et Caïn, il y a une femme et un homme, comme ça on ne peut pas se jalouser, n'est-ce pas ? Il y a une femme et un homme, puis il y a deux fautes collectives qui est l'aspect radical de suppression de la justice, et l'orgueil collectif de l'homme qui veut se passer de Dieu. Alors, je crois qu'on peut dire que c'est cette petite maquette de Dieu qui nous est donnée, qui représente bien le gouvernement divin sur les hommes. Les pères de l'Église avaient saisi ça. Aujourd'hui, on n'ose plus le dire. J'ai demandé, moi, mes grands amis, exégète de Jérusalem, le père Dreyfus, si je pouvais le dire, c'est intéressant. Alors le père Dreyfus a dit, oui, il faut lire l'Écriture en profondeur et découvrir que dans l'Écriture, on découvre l'économie divine sur l'homme. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier avant Abraham. Il y a quelque chose de tout à fait universel. Alors voyez l'histoire de l'humanité, elle est facile à comprendre. On a été créé dans un amour, et l'homme n'a pas répondu à cet amour, chassé du paradis terrestre. Nous sommes tous dans cette situation, qui n'est pas drôle, chassé du paradis terrestre. Et on est chassé du paradis terrestre, bien que nous ayons été créés dans un état de perfection, un état merveilleux, un état d'amitié avec Dieu et d'amitié avec les hommes. L'Éden. On rêve toujours de l'Éden, on rêve toujours du paradis terrestre. On y rêvera tout le temps et indéfiniment. Chassé du paradis terrestre. Et il y a l'ange qui est à la sortie du paradis terrestre, avec cette épée à deux tranchants, parce que Dieu sait très bien que l'homme aura une nostalgie permanente de retourner au paradis terrestre. Et l'homme ne peut pas retourner au paradis terrestre, c'est impossible. Donc, on nous montre notre situation chassée du paradis terrestre. Ensuite, on montre cette autre situation des hommes. C'est que les hommes, à cause de leur orgueil, ne trouvent pas la paix plénière par eux-mêmes, même dans un geste liturgique, un geste religieux. L'orgueil fait que l'homme devient capable de tuer l'homme. l'orgueil et la jalousie. Et vous voyez, le premier né des hommes, Caïn, c'est celui qui introduit l'homicide. Par jalousie. Puis vous voyez cette iniquité généralisée, le péché qui progresse. Il y a un progrès dans le péché. C'est du reste très émouvant, ça. Je crois qu'il y a une dialectique du mal. Il y a un progrès dans le péché. Et c'est au moment où l'iniquité est généralisée que tout est repris. Noé. Noé, c'est une préfiguration du Christ. Alors vous avez toute l'histoire avant le Christ et après le Christ, Noé. Noé, c'est la grande préfiguration du mystère de Jésus. Les pères de l'Église disaient « Le Christ est arrivé au moment où l'iniquité était généralisée. » Toujours. Parce qu'ils ont cette vision que ces 11 premiers chapitres de la Genèse représentent quelque chose de tout à fait fondamental. Tout est repris dans le Christ. Mais les hommes ne comprennent pas cette nouvelle miséricorde qui est donnée par le Christ. Et les hommes, d'une façon nouvelle, veulent s'émanciper. Le symbolisme de la tour de Babel. La libération des hommes par eux-mêmes. Le Saint-Père a dit, vous savez, quand il est venu ici en France, à Paris, et qu'il a parlé à huis clos aux évêques, mais après ça a été édité, et il dit que la grande tentation que l'Église vit aujourd'hui, c'est que l'homme veut supprimer le Christ Sauveur pour que l'homme puisse se libérer par lui-même. Symbolise la tour de Babel. Et je crois que le symbolisme de la tour de Babel, c'est ce que nous vivons actuellement avec toutes ces idéologies athées. On rejette Dieu de la conscience de l'homme et on veut sauver l'homme par cette construction, cette technique, poussée le plus loin possible, où l'homme n'aura plus besoin de Dieu. Du moins, on prétend que l'homme n'aura plus besoin de Dieu. Et là, il y a cette volonté d'unifier l'humanité par le point de vue de la technique, par le point de vue du facere, l'homme qui réalise son monde à lui, n'ayant plus besoin de Dieu. C'est assez impressionnant de voir ces quatre grands moments qui sont les quatre destructions de l'homme par le péché. C'est pour ça que je dis dialectique du mal. Il y a une dialectique du mal. Et la dialectique du mal, elle est représentée par ces quatre moments. Et ces quatre moments nous font comprendre comment le mal, qui d'abord est personnel, ensuite se généralise, ensuite s'universalise, et détruit jusqu'à l'image de Dieu en nous, et détruit jusqu'à notre univers. La tour de Babel et l'iniquité généralisée. Alors ça, c'est les deux grandes généralisations de l'orgueil. Et je crois que ces deux grandes généralisations de l'orgueil sont très significatives, puisque elles montrent comment l'homme cherche par tous les moyens de se libérer de la dépendance à l'égard de Dieu. C'est l'heure. Alors j'arrête. La fois prochaine, on essaiera de comprendre un autre aspect par rapport à l'anthropologie telle qu'elle nous est présentée. Ici, c'est le bas, hein, c'est le bas de l'anthropologie, de voir le mal. Et c'est une espèce de philosophie du mal de ces quatre moments. Alors, on essaiera de comprendre ensuite comment, de fait, Dieu reprend tout. Et alors, la nouvelle vision de l'homme à partir de cette reprise de Dieu qui se fait progressivement.